7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur la dictée, puisqu'on parle éducation comme chaque vendredi. Mais alors la dictée, il suffit de prononcer ce mot pour ouvrir automatiquement la boîte à souvenirs. On a tous une histoire heureuse ou douloureuse avec la dictée. Supposée enseigner l'orthographe, elle en a dégoûté plus d'un en réalité. Nous allons revenir sur cette passion française. Il ne suffit pas de dicter, encore faut-il savoir quoi dicter, et le choix des textes n'est jamais anodin. Mais la dictée est-elle le seul moyen d'éradiquer les fautes d'orthographe? Faudrait-il la remplacer par des jeux orthographiques, par exemple, comme c'est le cas dans de nombreux pays? C'est à vous de nous répondre. Appelez-nous si vous êtes attaché ou traumatisé par cette tradition. Nous allons prendre du recul ensemble. Nos invités, Xavier Mauduit, bonjour.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Alors, je ne sais pas si je dois vous présenter d'abord comme agrégé docteur en histoire.
Oh, si vous voulez.
On vous connaît en tout cas par France Inter, par la télévision, Arte, et vous publiez avec Laure de Chantal, un livre assez inattendu, venant d'un homme de médias, La Dictée, une histoire française. Alors c'est un côté un peu poussiéreux, volontairement, vous avez retrouvé dans de vieilles malles des tonnes et des tonnes de dictées. C'est publié chez Stock, vous êtes donc par ailleurs chroniqueur, histoire. On est également en ligne avec Anne-Marie Guignard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formatrice, je dirais même que vous êtes une médecin des fautes d'orthographe, car faire des fautes c'est souvent une souffrance, non?
Oh là. En tout cas, chez moi, ça me parle. Oui, la dictée, c'est un mot que je déteste.
Oui. Vous êtes une rescapée de l'orthographe. Vous avez publié La Revanche des Nuls en orthographe et puis aussi Hugo et les secrets de la mémoire. On appellera également une enseignante d'anglais, Isabelle Hardy, qui nous dira pourquoi et comment elle utilise une autre méthode très peu connue chez nous qui s'appelle le Spelling Bee. Je vous lis quelques messages d'auditeurs. Alors évidemment, vous pouvez commenter. Alors sur Facebook, là, c'est très simple. Il y a deux camps. Il y a les bienheureux de la dictée qui laissent éclater leur passion au grand jour. Ce que vous, finalement, c'est quand même votre cas aussi.
Ah,
non,
je les comprends. Je les comprends complètement. On a du plaisir à faire des dictées,
là,
à
voir.
Dicter et à lire des dictées.
Ah oui, à dicter aussi. Baba est à Bamako, au Mali. Nous dit la dictée, c'est ma discipline préférée depuis longtemps. Je l'enseigne à présent au Mali où le système éducatif handicap totalement les enfants, nous dit Baba. Ils n'ont plus de notion de base. Alors je reprends tout à zéro avec la dictée. François est à Dakar au Sénégal. Je suis étudiant à l'université. Je trouve que de nos jours, les élèves recopient la nullité de leur enseignant qui a déjà des difficultés à parler un bon français. Quand l'enseignant parle mal, l'élève également. La dictée est donc une clé et doit absolument être maintenue pour permettre aux jeunes de construire des phrases correctes. Mossolo est à Kinshasa. Seuls les bourriques n'aiment pas les dictées. Les bourriques apprécieront.
Les bourriques apprécieront Botenayo à Kinshasa. Ouais. Mais il est certain que la dictée est un exercice que l'on retrouve partout, hein, dès qu'on apprend le français. Donc il est incontournable, c'est normal qu'il y ait tant de réactions.
Ouais. Alors Yann est à Thomasina à Madagascar. La dictée pour moi était comparable à une balade de santé. J'ai appris l'orthographe à travers la lecture de différents documents, romans, bandes dessinées. Tout ça a été particulièrement motivant. Abdourachid est à Ouagadougou au Burkina. On ne peut pas connaître correctement la langue française sans la dictée. C'est grâce à elle qu'enfant, moi, je me suis intéressée aux dictionnaires, aux journaux et donc à la découverte des mots et de l'orthographe. On sent quand même un appétit extraordinaire. Là.
Oui, et souvent, les gens qui aiment les dictées aiment la langue, aiment le français.
Exactement.
Et aiment aussi jouer parce que la dictée, c'est un peu un jeu.
Ouais. Iqbal à Marrakech nous dit, pour moi, la dictée, ça a toujours été une grande fenêtre qui s'ouvre sur les mystères des mots. Avec le temps, on apprend à les déceler, à maîtriser leur orthographe une bonne fois pour toutes. Et là, cette belle discipline, ô combien primordiale, car fondamentale dans l'apprentissage de l'orthographe, a tendance à déserter les programmes scolaires dans la plupart des pays francophones. Je vois un petit côté quand même passéiste hein, chez nos auditeurs sur la dictée.
Oui, mais sur la dictée, on est obligé d'être dans la nostalgie parce que ça nous rappelle notre enfance et ça rappelle un petit peu nos vieux instituteurs. Même si la dictée...
Elle n'a pas disparu. Hein,
elle n'a pas disparu, elle est toujours là. Et puis, c'est un exercice à l'échelle de la vie et de l'histoire de la langue française. C'est un exercice à assez récent.
Ouais. Alors Rebecca nous dit à Niamey au Niger, moi j'ai toujours eu un bon niveau en orthographe grâce à la dictée. Le fait d'écrire me permettait de retenir plus vite. Le cri du cœur de Moussa N'Djamena au Tchad, la dictée c'est la meilleure méthode d'apprentissage de la langue, mais parfois l'orthographe française est vraiment compliquée. Ça, il faut quand même bien le dire.
C'est une horreur, mais c'est
oui,
une horreur.
Parce qu'il y a des langues tout aussi difficiles que la langue française, mais la particularité de la langue française, c'est qu'on écrit des sons qu'on ne prononce pas.
Exactement.
On n'entend pas tout ce qu'on écrit.
Et puis, il y a un manque de logique, c'est-à-dire que pourquoi dans ce mot-là, il y a deux P, dans celui-là, il n'y en a qu'un. Et vous savez, la double consonne,
exactement,
c'est l'horreur
d'autant
de l'écolier.
D'autant plus que les doubles consonnes, on ne les entend pas quand on parle, alors
fait.
Que par exemple, avec la langue italienne, il y a tellement d'accentuation tonique, il y a une musicalité de la langue italienne qui peut nous aider à retenir les doubles consonnes, par exemple.
La dictée est le reflet de l'histoire de notre langue, donc les mots sont porteurs de toutes ces évolutions, et aujourd'hui, parfois, il est bien difficile de savoir pourquoi à Oignon, il y a un i derrière le o.
Ça, on se demande franchement. Est-ce que vous voulez aussi l'envers du décor où l'armée des opprimés par des années de dictature? Ça vous va, dictature?
Dictature, c'est assez rigolo.
Oui. Anne-Marie Guignard, vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui.
Je vais vous lire le message de Terry à Yaoundé, au Cameroun. Pour moi, c'était un vrai cauchemar. J'avais tout le temps zéro en dictée. Pourtant, en anglais et en allemand, j'ai pas eu autant de problèmes, alors qu'il y avait par la dictée, il n'y avait pas la dictée pour apprendre l'orthographe et la grammaire, donc je ne vois pas comment la dictée permet d'évoluer en orthographe et je n'aime pas du tout cet exercice. Kofi, à Dakar, nous dit « Moi je suis un peu écœurée que nos programmes d'enseignement se battent ainsi afin que les élèves soient capables de maîtriser la langue française. Il faudrait commencer par nous apprendre à maîtriser nos langues locales en premier. » Sur ces traumatisés de la dictée, on pourrait en trouver partout, non Anne-Marie Guignard?
Oui. En fait, la dictée des partages, pour moi, c'est un outil de... C'est comme des statistiques, en fait. Quand tu fais faire une dictée à quelqu'un, alors le très bon va s'éclater forcément et puis le mauvais va se dire « Mon Dieu, quelle horreur !» Et en fait, la dictée ne répare pas. Elle peut permettre de repérer en fait les difficultés qui vont toucher des règles de grammaire basiques, l'orthographe des mots d'usage, le doublement des consonnes. C'est vrai que la langue française, elle est difficile, mais il faut la maintenir. Elle est belle, on en a besoin. C'est une langue des affaires, et y compris partout dans le monde entier. Et moi, j'aime les gens qui disent « je me régale quand je fais une dictée », parce qu'en fait, ils n'ont pas de problème, ils sont dans autre chose, ils sont dans la beauté des mots. Et puis, il y a celui qui prend son crayon et qui va galérer toute la durée du texte.
Mais
qui sera dicté.
Si je vous comprends bien, il faudrait faire des dictées qu'aux bons en orthographe, et aux autres, il faudrait faire autre chose, hein, non?
Alors, on pourrait en faire, mais plus tard. On pourrait en faire plus tard parce qu'en fait, moi, ce que je vois sur le territoire français, c'est des jeunes, des enfants, des adolescents, des étudiants, des salariés d'entreprise à qui on demande d'écrire parce que le numérique est là et qu'aujourd'hui, l'écrit est repassé en avant. Et en fait, ils se retrouvent à nouveau en difficulté, pensant bien être débarrassés de ce problème-là. Et donc, il y a une réparation qui est simple, rapide, efficace. La grammaire, elle est difficile telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, mais on peut la rendre extrêmement ludique. Et on peut donner sa chance à tout le monde. Moi, je suis vraiment porteuse d'un message d'espoir. Dieu sait si je sais que j'ai été abonnée au zéro, moins que zéro même.
Xavier Mauduit.
Mais c'est très juste ce que dit Anne-Marie Guignard. La dictée, c'est un jeu, on peut y prendre du plaisir. Et regardez, les règles sont très simples. Il faut être quoi? Deux au minimum, on peut être même beaucoup plus. Quelqu'un qui dicte et quelqu'un qui écrit, il faut un bout de papier, un stylo et un texte. Oui, parce qu'il faut bien dicter quelque chose.
Oui, alors c'est un jeu à condition de ne pas avoir de notes négatives, hein, parce que la dictée, c'est à peu près quand même la seule épreuve pratiquement avec les versions latines. Mais ça, c'était quand même dans un temps assez reculé, on pouvait avoir des notes négatives.
Ah ben, la dictée, c'est terrible, bien sûr, on a tous vécu ça. La copie couverte de rouge et l'horreur de se rendre compte de la grosse faute d'orthographe. Mais dans la dictée, il y a un moment qui est intéressant, c'est quand elle est mise en place au milieu du 19e siècle.
Justement, qui a inventé un truc pareil?
Vous savez, c'est très simple, hein, c'est quand dans les années 1830, les lois Guizot imposent des écoles, la création d'écoles dans toutes les communes. Les instituteurs, un nouveau métier, on va dire, se trouvent confrontés à un problème, mais que dicter ? Et apparaissent des manuels de dictée avec des textes. Et très vite, hein, les instructions officielles se rendent compte de quelque chose qui nous semble comme une évidence. Ça ne sert à rien de dicter comme ça, sans que l'élève connaisse le texte, parce que sinon il va faire plein de fautes. La dictée, il faut la travailler avant, il faut voir le vocabulaire, il faut en jouer. Et une fois que l'élève, l'écolier a appris les mots, il peut faire sa dictée.
Ouais, alors vous avez retrouvé énormément de dictées qui racontent quoi finalement depuis la massification de l'école en fait. La dictée arrive au moment de la massification. Hein. On pouvait faire une dictée à 50 élèves d'affilée.
C'est tout à fait ça. La dictée, c'est adressée à tous les enfants de France, parce que on a vraiment cette idée-là. La dictée raconte la France. La dictée est un exercice très français, hein. On ne trouve pas vraiment ça dans les autres pays, un petit peu en Asie, au Japon, en Corée, dans les pays anglo-saxons, on va en trouver, mais ce sont des dictées de mots, c'est encore autre chose. La dictée, c'est très français, et donc la dictée raconte la France avec une vraie volonté politique qui est très simple à comprendre. Quand la nation se crée, le sentiment national apparaît, on a la nécessité de donner une identité, un sentiment d'union nationale, et quoi de mieux que la langue pour faire passer ce sentiment.
Alors c'est vrai que vous avez retrouvé des dictées incroyables. En étant 1911, dictée républicaine, pourquoi nous devons aimer notre patrie? Si nos ancêtres revenaient, ils ne reconnaîtraient pas leur vieille France et se demanderaient quels sont ces seigneurs qui se promènent partout librement, chassant, pêchant, allant où bon leur semble, travaillant à leurs idées et rentrant le soir dans une maison propre, bien bâtie. Ces seigneurs, ce sont d'anciens ouvriers, d'anciens laboureurs qui se sont enrichis en travaillant, d'où l'intérêt aussi des liaisons, on sait quand est-ce qu'il faut mettre un T. Cette tranquillité, cette égalité, nous les devons aux pauvres paysans, écrasés longtemps sous la botte des anciens nobles, à ce bon peuple français, si patient, si courageux, qui a travaillé pour nous, qui a acheté de ses larmes et de son sang cette liberté qui nous rend si heureux et dont nous sommes fiers.
Alors c'est très drôle, Emmanuel, parce que vous venez de lire une dictée, le texte est très beau, mais vous auriez pu partir en faisant le ton de la dictée, si nos ancêtres revenaient. Si nos ancêtres revenaient. Cette musicalité de la dictée, on la connaît tous, hein, on l'a dans l'oreille. Mais vous voyez que quand vous vous appropriez le texte de la dictée, on se rend compte surtout qu'il y a un message derrière. Et à la base, le message, il est nationaliste, disons-le. Hein, nationaliste à un moment, et c'est intéressant, où le français n'est pas la langue de la majorité des Français. On parle encore beaucoup dans les campagnes, soit des patois, soit des langues régionales. Le français n'est pas une évidence encore, c'est la langue de l'instituteur, du curé ou du notaire.
On est dans une France encore majoritairement rurale, hein,
tout
donc effectivement. Oui, oui. Alors donc, une propagande, hein. La dictée c'est de la propagande quand même, pendant très longtemps jusqu'à... Ou alors des textes un peu mièvres, un peu stupides, sur la beauté de la nature, mais c'est quand même... C'est soit de la propagande, soit gnangnan finalement.
Oui, en fait la dictée est toujours un peu à la bourre, mais c'est de la propagande. Dans le sens où, au 19e siècle, très vite, le pouvoir se rend compte que les Français ne lisent pas beaucoup, parce qu'il y a encore plein d'illettrisme. Et donc, on se dit, mais par les enfants, on va pouvoir passer des messages dans la famille. Ça, c'est très malin, parce que, effectivement, ça ne sert à rien de s'adresser aux parents cultivateurs qui ne lisent pas. Mais les petits qui vont à l'école, on peut leur faire des textes en dictée, par exemple, ou en lecture, mais les dictées, ça marche bien, ça rentre bien dans le crâne, sur ne pas aller au cabaret. Parce que le cabaret, c'est la perdition. Et le soir, quand le gamin rentre chez lui, il rapporte ce message à ses parents. Donc, vraiment, les pouvoirs ont bien compris l'utilité des enfants.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Aujourd'hui, Anne-Marie Guénard, un élève sur deux arrive en France en classe de 6e avec un mauvais niveau de langue à l'écrit. Vous l'avez dit, de nombreuses entreprises font faire des tests d'orthographe d'ailleurs à leurs candidats. Il y a des écoles de commerce ou d'ingénieurs, des grandes écoles, qui proposent des remises à niveau en orthographe. Tout de même, on se pose la question, d'où vient le problème? Est-ce que c'est un problème dû à la difficulté de la langue française ou est-ce qu'il y a un problème dans la façon d'enseigner aujourd'hui l'orthographe?
Alors moi déjà, j'ai adoré le passage, la lecture de la dictée. C'est vrai que quand tu as acquis les compétences, ça peut devenir un bonheur. En fait, l'époque dont on parlait à l'instant, c'est une époque ancienne et on y passait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui,
il y avait une dictée tous les jours à l'école
déjà,
primaire.
Déjà, il y avait une dictée tous les jours, mais même l'enseignement type de la langue syllabique. Alors c'est vrai que le syllabique, on ne va pas remettre la guéguerre en route. Mais en fait, moi ce qui m'a manqué, c'est le montage du mot. J'entendais le mot dans sa totalité et je l'écrivais comme j'entendais en fait. C'est ça qui est difficile. Et aujourd'hui, nos étudiants, même certains enseignants, même des enseignants du premier degré aujourd'hui, font des erreurs au tableau.
Ouais. Alors vous êtes une rescapée de l'orthographe, Anne-Marie Gagnard. Vous allez nous expliquer...
Je suis sauvée toute seule en fait.
Oui, exactement. Vous allez nous expliquer comment et surtout quelle est votre approche, en quoi elle est complètement différente de l'approche scolaire pour soigner les mots de l'orthographe. Ce sera juste après Romain Humeau.
Sabounia, facette haussmannienne. Café du commerce, bref, d'un comptoir. Souvent mal aimable, l'œil besognant l'asphalte. Comme traquant les fantômes en toi-même. Comme pour la France de l'avoir, Henri se plie en quatre. Toi, tu n'es plus qu'un sourire à la traîne.
C'est Romain Humeau chez Paris, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Vous écoutez RFI, effectivement, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on parle d'éducation comme chaque vendredi chez 7 milliards de voisins. Avec Xavier Mauduit, qui publie La dictée, une histoire française. Anne-Marie Guignard, vous êtes spécialiste de la réparation en orthographe. Vous avez ouvert en 2009 un centre près d'Angers, un centre de formation continue pour adultes qui, en fait, ne supportent plus d'être jugés à cause de leur mauvais niveau en orthographe. Vous réparez aussi des enfants bloqués en orthographe. Alors, en quoi votre approche est différente de l'approche scolaire ?
Bien, en fait, les enfants qui arrivent chez moi, ce sont les mauvais. Moi, j'ai pas les bons, en fait. Hein, j'ai les mauvais.
Pas, alors, déjà, donc, vous n'avez pas ceux qui adorent la dictée ?
Ah non. Après, derrière, oui, alors évidemment, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut réparer et après aimer la dictée. Mais sinon, c'est le parcours du combattant. En fait, ce qu'on explique déjà d'entrée à l'enfant, c'est de lui dire, alors écoute, ce n'est absolument pas de ta faute. Est-ce que tu te rappelles avoir appris à lire ? Quelle était ta méthode ? L'histoire qui était dedans ? Les personnages ? Et là, vous avez l'enfant qui baisse la tête, qui le relève un peu en disant, je ne me rappelle pas. En fait, il a appris à lire seul. Parce qu'il est passionné, parce qu'il est intelligent, parce que la méthode avec l'image plus le texte lui permet de partir dans la rêverie, d'apprendre à reconnaître les mots avec ses yeux. Mais ce n'est pas parce que tu sais lire que tu sais écrire. Et ça, c'est une vraie réponse, en fait. Et quand nous, on rectifie l'orthographe de ces gamins-là, c'est lui dire d'abord la première chose, et tu auras 100% raison à chaque fois. Écoute-toi écrire. Quand tu hésites quelque part, fais un petit trait, un R, deux R, un P, deux P. Et surtout, là où il faut que tu sois extrêmement vigilant, c'est tout ce qui termine en « e », en « i » et en « u ». Il faut bien qu'on lui mette des espèces d'arrêts obligatoires dans sa phrase. Moi, c'était écrit sur mes copies « ne s'est pas relu » et pourtant, je
ne l'ai pas relu. Ne s'est pas relu, oui.
Et voilà, et en fait, je vous avais dit tout à l'heure, quelqu'un a dit dans ses témoignages, « moi, quand j'écrivais, je retenais ». Eh bien, c'est une mémoire extrêmement puissante, très très forte, qu'on appelle la mémoire kinésique, qui concerne des kinesthésiques, des enfants qui ont besoin de faire pour comprendre.
C'est le geste,
qu'est-ce qu'on
c'est
faire
ça.
Avec la
en
grammaire.
Fait, c'est le geste du crayon et de la main qui s'imprime, hein, c'est bien cela.
Oui, alors moi, ça va au-delà. Ça veut dire qu'on met des symboles, on saute un mur quand on tombe avec avoir, on lui pose sa question, c'est qui, c'est quoi. Rien d'autre lui répondra que celle-là. Et puis, hop, il fait un geste avec son crayon. En fait, il est dans le faire tout en étant en train de se réparer. Et en fait, la grammaire, si on veut être clair, elle tient en trois questions. Qui est-ce qui quoi, à qui, à quoi. C'est
oui.
Fini. Il n'y en a pas d'autres.
Ah oui, vu comme ça, c'est pas du tout comme ça qu'elle est enseignée, Xavier Mauduit.
Non, on en est loin.
Mais ce qui est intéressant, parce que même moi, encore aujourd'hui, je ne peux pas me plonger dans un bouquin de grammaire. Moi, le bled et le bécherel, j'étais punie avec
oui,
un bled
sans faire
un
remonter des traumatismes.
C'est surtout que je ne savais pas où aller chercher l'hésitation, puisque je n'avais pas à quoi ça correspondait.
Ouais. Xavier
Mauduit. Donc quand on a réglé en fait tout ça, derrière, ça y est, le tapis rouge. Moi, je rêverais que tous les enfants aiment faire des...
Bon, restez avec nous, Anne-Marie Guignard. C'est vraiment un sujet absolument passionnant, la dictée et l'orthographe. Xavier Mauduit est en studio avec nous. Cauchemar ou beauté de la dictée, comment enseigner l'orthographe? Bien sûr, vous nous appelez, on attend vos appels, on vous donne la parole juste après le flash, dans un peu plus de 3 minutes. 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle éducation comme chaque vendredi et aujourd'hui la dictée, une passion française ou une oppression française pour enseigner l'orthographe. Est-ce la seule méthode ? Xavier Mauduit, vous publiez La dictée, une histoire française. Je disais bien oppression parce que c'est quand même aussi des textes, vous nous en parliez en première partie d'émission, des textes de dictée quand même assez incroyables où il y a parfois de beaux sentiments patriotiques, mais d'autres textes qui sont beaucoup moins glorieux quand même.
Ah oui, non, vraiment.
Que l'on dictait aux élèves pendant des décennies.
Je vais vous dire, l'histoire de la dictée, elle est assez simple. Il y a deux périodes. La première, ce sont des textes écrits pour être des dictées. On fabrique des textes. Mmh. Et alors là, on se régale. Hein, les textes patriotiques, colonialistes évidemment, parfois racistes. Et donc, on a du vrai texte avec un vrai message. Et puis, la Première Guerre mondiale est une rupture où là, on se rend compte qu'on a été peut-être un peu trop loin dans le patriotisme absolu, le nationalisme qui a conduit à l'horreur. Et après la Première Guerre mondiale, donc dès les années 1920, les textes qui sont donnés en dictée sont des textes d'auteurs. Ouais. Et ce sont les dictées
donc
qu'on a connues.
Donc moins crétin quand même. Hein.
Voilà, on choisit un auteur et apparaissent les vedettes de la dictée. Donc ces grands, Anatole France, voilà. Maupassant.
Et là, bon, bah c'est de la donc ça permet aussi de faire découvrir la littérature.
Ah ben certains ont découvert un extrait d'auteur dans une dictée et ont ensuite été voir l'ensemble de l'ouvrage.
Ouais, on est également en ligne avec Anne-Marie Guignard qui est formatrice, réparatrice des grands mots de l'orthographe qui publie La revanche des nuls en orthographe et Hugo et les secrets de la mémoire. Ça c'est vraiment une méthode où Anne-Marie Guignard, les mots sont des personnages en fait hein, pour essayer de faire comprendre comment l'orthographe est vivante. Xavier Mauduit, vous souhaitiez réagir à ce que expliquait Anne-Marie Guignard en première partie d'émission.
Oui, bah pour l'orthographe, nous avons également les procédés mnémotechniques. Mais où est donc Ornicard ? Pour les conjonctions de coordination. Ça ne marche pas, mais ça fait partie de notre patrimoine. Il faut plus d'air pour se nourrir que pour mourir. Et on sait que nourrir prend deux airs. Ce sont des éléments
je
qui peuvent structurer.
Je n'aperçois qu'un P à apercevoir,
voilà.
C'est ça. Alors on peut en faire toute une émission.
C'est sûr, il y en a plein.
Mais oui, mais bon, ceci dit, mémoriser aussi tout simplement des phrases. La fleur que tu m'as donnée, on se souvient que c'est E. Et donc ensuite, il suffit d'appliquer, de voir si les autres phrases ressemblent à celle-ci pour savoir si on va mettre effectivement un E à la fin. Vous dites que ça ne marche pas, Anne-Marie Guignard ?
Mais moi, souvent, je fais le petit test, là, hibou, caillou, chou, genou, voilà. Mm. Et je dis à l'enfant, alors qu'est-ce que tu mets quand on doit écrire un bijou ? Et il me fait un très beau sourire, il me dit un X.
Oui,
alors,
oui, mais parce qu'il est modeste, il n'en veut qu'un.
Il n'a pas fait le lien entre la liste qu'il a apprise par cœur et puis son utilisation.
Voilà, en fait, il se l'est approprié un peu comme une comptine, mais en fait, il ne voit pas l'intérêt de ressortir ça et quand, parce qu'en fait, il est dans autre chose. L'élève en difficulté, quand il écrit, il est extrêmement concentré, il hésite pratiquement partout et les doublements de consonnes, évidemment, vont lui poser problème. Alors parfois, il te double tout, comme ça, il se dit, si la maîtresse veut en voir deux, elle en verra deux. Il transforme son écriture, il camoufle aussi. Donc c'est tout ça que moi, je répare et je raconte des histoires. Et ce qui est important aussi, c'est comment je vais me rappeler. Parce que tu peux dire à un enfant, je ne sais pas moi, prenons un exemple d'un mot un peu difficile, je cherche...
Hirondelle, un L ou deux L ?
Mais en fait, moi, il est debout et je vais lui dire, pour commencer ta liste, il faut que tu te caches un œil. Si tu aperçois, tu aperçois avec un œil. Donc si je t'aperçois, je t'aplatis et je t'aplanis, puis je m'apitoie pour t'apaiser tellement tu es apeuré. La liste, il va l'avoir, mais s'il a fait... C'est-à-dire s'il se met debout, s'il la met en scène, il y a une mémoire supplémentaire qui est celle du fer qui va se mettre en route.
Oui, bien sûr.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui, tout à fait,
et
avec les gestes.
Et se rappeler que accueil prend deux C et un U, si on parle des adultes salariés d'entreprise, comment je vais me rappeler que accueil deux C et un U, en fait, il va gestuer ou il va dessiner pour rentrer et remonter son capital.
C'est ça. Et donc, hirondelle, on écarte les bras et on fait l'oiseau qui vole, c'est
ça ? Non, une hirondelle à deux ailes, sinon elle ne vole pas.
Pourquoi deux ailes à pollution ? Parce que tu peux visualiser la mouette avec deux ailes.
Restez en ligne avec nous, Anne-Marie Guignard. C'est vrai que tout de suite, on est dans un débat passionné sur la dictée et l'orthographe. On est en ligne avec une enseignante d'anglais. Bonjour Isabelle Hardy.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeure en collège à Paris. Vous utilisez une méthode qui est peu connue chez nous. Vous avez testé l'année dernière avec vos élèves en France qui apprennent l'anglais, qui s'appelle le Spelling Bee. Vous pouvez nous dire ce que c'est ?
Oui, alors on avait travaillé sur le Spelling Bee dans le cadre de notre premier chapitre de sixième qui était essentiellement de la révision sur savoir se présenter, saluer, dire d'où on vient et savoir épeler un mot ou comprendre un mot épelé. Donc on avait travaillé sur l'alphabet en classe, fait des petits exercices répétitifs de lecture orale, d'entraînement à la dictée. Et ensuite on avait abordé notre projet final, notre projet concret qu'on réalise en langue vivante à la fin d'un chapitre, qui est le Spelling Bee, donc qui est un concours d'orthographe orale, très à la mode dans les écoles primaires américaines. Donc j'ai montré aux élèves en classe des extraits vidéo de différents concours. On a étudié un petit peu comment ça s'organisait, ce que chacun faisait et disait. Et on a préparé le concours en classe avec les élèves, en faisant en sorte que tous les élèves tiennent un rôle différent, tous les 3-4 candidats, afin qu'ils restent vraiment actifs tout au long de l'évaluation. Donc on avait deux élèves en charge du jury qui accueillaient le candidat, lui demandaient de se présenter, piochaient dans une petite boîte un mot et lui demandaient en anglais d'épeler le mot après l'avoir lu.
Ouais. Donc en fait, le principe il est très simple. Hein. On épelle un mot, il y a un élève qui demande à un autre élève d'épeler un mot devant toute la classe. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire ça en petits groupes hein, pour ensuite départager. Dans chaque groupe, il y a un vainqueur, celui qui n'a pas été éliminé. Et puis ensuite, tous les vainqueurs vont s'affronter et on arrive à une finale. C'est ça en gros. Hein.
Oui, voilà. Donc aux États-Unis, d'ailleurs, ils font ça soit entre élèves d'une même classe, soit entre plusieurs classes d'un même niveau, soit entre plusieurs écoles d'un même district. Vous voyez, enfin, il y a plusieurs, on peut aller très loin comme ça. On avait fait ça dans les heures en demi-groupe.
Ouais, mais ça plaisait ou pas?
Ah oui, les élèves étaient complètement à fond. Déjà, le fait qu'ils voient que c'était quelque chose qui existait vraiment dans la réalité. Lorsqu'on a vu les vidéos, ils étaient complètement fascinés. On va faire pareil qu'eux, madame, comme aux États-Unis, c'est super.
Ouais. Alors, évidemment, la seule chose, c'est que le spelling bee, ça marche pour épeler un mot, ça marche pas pour des accords dans une phrase qui est quand même la bête noire de la dictée et de la langue française.
Non, là, c'était vraiment pour épeler un mot en anglais et surtout pour leur faire travailler la prononciation des lettres de l'alphabet. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Hardy de nous avoir parlé de ça. Vous allez relancer des spelling bee avec vos élèves. C'est une... Hein?
Oui, ça avait tellement bien marché. En plus, au niveau des résultats, on avait vraiment vu de meilleurs résultats que ce qu'ils avaient pu avoir en entraînement en classe. Donc c'est vraiment quelque chose qui leur avait beaucoup plu.
Et ça pourrait tout à fait être utilisé effectivement à l'école primaire pour l'orthographe française, même si évidemment ça se limite à épeler un mot. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Anne-Marie Guignard, le Spelling Bee, vous connaissez ?
Oui, je connaissais. C'est une... Moi, j'aime beaucoup en fait... Parce que l'élève est actif, il est acteur de son truc, il a un rôle aussi à jouer, donc c'est extrêmement important. Ça permet d'ancrer un certain nombre d'informations. Là, j'étais ce matin en intervention, quand je vois qu'ils sont plus concentrés, on se met debout sur ses pieds, déjà ça oblige à être concentré. De toute façon, tout ce qui peut tirer moi vers le haut me plaît.
Oui, on n'est pas tout seul devant son cahier ou sa feuille à trembler de la note négative que l'on risque d'avoir pour une dictée. Oui. Xavier Mauduit.
Oui, et puis la dictée dans ce cas-là devient un jeu, et on connaît bien les jeux... par les dictées pour adultes, hein. Les dictées de Bernard Pivot sont célèbres. Il y a la dictée de Mérimée, là. Elle est très célèbre aussi, cette dictée de Mérimée de 1857.
Et puis alors, il faut dire que plus les dictées sont difficiles en France, plus le jeu a du piment, en fait. Hein. Il y a quand même quelque chose d'un peu masochiste aussi. Hein.
Exactement, et il faut assumer de faire des fautes. Ce n'est pas grave, principal c'est d'écrire, c'est de faire des dictées, de lire et de se corriger pour avancer. Moi, je regarde la société autour de moi et je me rends compte que, contrairement à ce qu'on pense souvent, jamais on a autant écrit. La jeunesse écrit énormément. Les adolescents ne téléphonent pas, dans le sens où ils ne parlent pas dans leur téléphone. Ils écrivent, ils envoient des textos et tous les réseaux sociaux, ce n'est que de l'écrit. Donc, faisons en sorte que cet écrit soit le plus lisible possible. Mais quand on les regarde bien, les textos, même complètement écrits de manière phonétique, ressemblent au français tel qu'il était écrit au XVIe siècle au XVIIe siècle.
Vous allez créer de la bonne humeur.
Ah mais non, écoutez, vraiment, quand on lit des textes du XVIe et du XVIIe, à un moment où les dictées n'existaient pas encore, il n'y avait pas d'école et le français n'était pas uniformisé par l'Académie française comme il se doit, eh bien, ces textes du XVIe, c'est du texto d'aujourd'hui, c'est la même chose et l'on comprenait très bien.
Ouais. Vous nous appelez au 33 84 22 71 71, que vous soyez passionné ou au contraire effrayé par la dictée. En tout cas, on s'interroge sur cette méthode pour apprendre, enseigner l'orthographe. Nous accueillons un auditeur, Amadou, qui est à Bambé, au Sénégal. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu. Vous êtes professeur de français ou rien à voir?
Bon, en fait, moi, je suis enseignant informatique à l'école Sainte-Croix de Bambey.
Oui.
Alors, moi, ici, au niveau de notre école, et même d'une manière un peu globale, au niveau du Sénégal, donc l'avènement des smartphones et des téléphones portables ont vraiment beaucoup empiété sur la dictée. Mmh. Parce qu'imaginez un élève à l'âge de 7 ans, avec l'environnement avec lequel vit votre papa, on vous achète un téléphone portable ou bien un smartphone. Mmh. Alors là, vous commencez maintenant à envoyer des textos avec le langage SMS. Pour, au lieu d'écrire P-O-U-R, ils écrivent P-R. Avec, au lieu d'écrire A-V-E-C, ils écrivent A-V-C, etc. Maintenant, imaginez jusqu'en classe de CE2, c'est-à-dire le cours élémentaire numéro 2, c'est à partir de là que l'on doit commencer les dictées. Maintenant, ces élèves ont des problèmes parce que pour pouvoir écrire le pour, P-O-U-R, mais c'est tout un problème. Quel que soit vraiment les gymnastiques que vont faire les enseignants, ils auront toujours des problèmes parce qu'elles reviennent, parce que le langage texto
Vous, en tant qu'enseignant d'informatique, vous avez décidé de prendre le problème à bras-le-corps, c'est ça, de vous mêler d'orthographe, ce qui, a priori,
exactement,
n'est pas votre métier.
Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici à l'école Sainte-Croix de Bambey, notre école? Moi, en tant qu'enseignant informatique, j'ai développé des didacticiels sur PowerPoint, sur Flash. Maintenant, puisque les élèves aiment les dessins animés, donc je prends des figures de dessins animés parmi lesquelles je fais parler. Et maintenant, je leur fais écrire des phrases correctes.
Ah oui.
Et maintenant, les élèves, puisqu'ils sont des fans de ces figures de dessins animés, ils ancrent ces concepts et ces mots normalement écrits dans la langue française, par l'Académie française, et maintenant, vraiment, ça paye. Parce que le dernier examen qu'on a fait ici au niveau de Bambey, on a eu un 100% de réussite au niveau de l'entrée en 6e.
Ah, bravo! Bravo!
Oui, vraiment. Oui. On a eu, parmi tous nos 50 élèves ont réussi à 100% sur l'entrée en 6e. Et le niveau de l'orthographe et du vocabulaire, quand même, ça paye ici à l'école Sainte-Croix de Bambey. Avec ces didacticiels.
Oui. Et ça vous a semblé plus efficace, finalement, que de faire des dictées?
En fait, les enseignants continuent à faire les dictées, mais les élèves continuent à écrire normalement le français par le biais de ces didacticiels qu'on a eu à mettre vraiment sur place.
C'est ça, les deux se complètent. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Amadou, Xavier Mauduit.
C'est un très beau témoignage, ça fait chaud au cœur de se dire qu'il y a une vraie volonté derrière pour faire avancer comme ça la langue, avec ce constat évident que les jeunes écrivent. Faisons-les bien écrire. Vous savez, il y a quelque chose qui arrive très souvent, le « ça va », S-A, plus loin V-A. C'est dommage, on remplace une lettre par une autre et c'est correct. Il suffit de le dire et des exercices comme on vient d'entendre peuvent être le petit détonateur dans la tête qui va faire comprendre que c'est dit A, c'est aussi bien que S-A.
Ouais, et puis finalement, Anne-Marie Guignard, là c'est du visuel, des personnages, donc la grammaire qui prend vie avec des personnages, c'est pas si éloigné que Hugo, Les secrets de la mémoire, votre livre pour réapprendre l'orthographe.
Alors, en fait, Hugo et les secrets de la mémoire, c'est plutôt tout apprendre à tout âge. Mais en fait, moi, j'écris toujours pour les parents, de manière à ce qu'ils puissent s'impliquer aussi dans l'apprentissage, parce qu'on demande beaucoup, hein, le soir aux enfants, les leçons, les choses comme ça. Donc, essayer de gagner du temps et savoir qui on est, comment on mémorise, quelle est la mémoire prédominante et comment je vais faire pour retenir jusqu'à demain matin, parce que j'ai, par exemple, ma dictée. Moi, ce qui me met vraiment en colère, c'est ces fameuses dictées préparées, où on envoie je ne sais combien de mots pour le lendemain, le gamin apprend ces mots-là, en fait il n'aura jamais 20, il aura toujours des trucs qui ne vont pas.
Ah oui,
et
alors,
ça a camouflé trop longtemps.
Oui.
Pardon, ça a camouflé trop longtemps, l'échec, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on n'a pas loin de 50% de la population qui a bien du mal à écrire une phrase simple sans faute. C'est un peu grave ce qui se passe. Hein.
Anne-Marie Guignard, un message d'un auditeur, Patrick, qui est au Katanga, en République démocratique du Congo, nous dit que lui, il avait l'habitude de préparer la dictée à l'avance. Il nous écrivait le message suivant. Si vous l'aviez lu et relu, c'était un plaisir. Et évidemment, quand la dictée n'avait pas été travaillée à l'avance, c'était une bête noire. Le nombre de fautes équivalait au nombre de coups de fouet reçus. Bon, au-delà du problème des châtiments corporels, un autre problème, mais vous n'êtes pas favorable à la préparation en amont de la dictée où le maître donne une dictée que tous les élèves connaissent et ont travaillée?
Écoutez, si ça réparait, ça se saurait. D'accord ? Ça ne répare pas, en fait. Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Moi, des fois, j'en reçois, il y en a un l'autre jour, il m'a dit, tu sais, moi, j'adore la chasse. Ok, d'accord, on va écrire sur la chasse. Alors, il prend son crayon, il commence par écrire la chasse. Je dis rien, je ne bouge pas, c'était son titre. Premier mot, j'appelle mon grand-père. Il écrit, j'appelle, J-A-P-E-L. Il lève sa petite tête, il pose son crayon et me dit, tu vois, ça commence. Il en a bouffé des dictées préparées, ce gosse.
Oui, oui.
Bon. Donc, en fait, que les enfants veulent et qui seront demain nos adultes, et j'espère qu'ils seront debout bien sur leurs pieds et que la langue française, il faut la préserver. Je reste convaincue. Et c'est vrai que le numérique remet ça en avant, les portables, ordinateurs, les tablettes. Et voilà. En fait, ce que veut un enfant, c'est être debout sur ses pieds. Et quand on n'a pas accès aux mots, on n'a accès à rien. Chez moi, des stagiaires qui vont dans les grandes surfaces et remplir leur chèque parce qu'ils se remplissent tout seuls avec une machine, c'est grave. On dépense des millions d'euros pour lutter contre l'illettrisme.
Oui, vous avez raison de souligner ce complexe social qui est extrêmement important. Xavier Mauduit.
Et le complexe social existe d'autant plus que l'on sait bien que les classes aisées ont accès à la langue, à l'apprentissage de la langue, presque envie de dire de manière évidente et traditionnelle, quand les classes les plus défavorisées sont privées de cet accès. Et c'est un maintien dans l'asservissement. On le voit bien, on sait bien comment ça se passe.
Moi, j'ai autant d'enfants de chirurgiens dentistes que d'ouvriers d'usine. Ça n'a rien à voir avec la classe sociale. Rien à voir.
C'est pas ce que disent les statistiques. C'est pas ce que disent les statistiques. Mais par contre, en revanche, c'est vrai que les enfants de familles favorisées, on va trouver des solutions pour les aider. C'est aussi
Ce qu'il faut voir, l'actuelle déjà position de la France, ne serait-ce qu'à l'OCDE. 26e sur 28, on est la honte de l'OCDE quand même.
Vous parlez de quoi, 26e sur 28? Vous faites allusion à quoi, là, Anne-Marie Guignard?
Des classements des fondamentaux pour toute l'Europe.
Sur le niveau en lecture et en écriture des enfants de 15 ans, c'est bien ça.
26e sur 28, c'est lire, écrire et compter dans tous les pays d'Europe.
Oh, yeah. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Nous donnons la parole à Awalou qui nous appelle. Bonjour Awalou, vous êtes dans l'ouest du Cameroun, c'est bien ça?
Oui, c'est bien cela.
Vous êtes à Banjou?
Oui, bon, je suis à Banjou, dans un établissement secondaire, en fait dans un lycée. Quoi.
Ah, vous êtes prof de français, c'est bien ça, hein, dans le secondaire, au collège?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors parlez-nous de vos méthodes pour enseigner l'orthographe. Est-ce que vous utilisez beaucoup la dictée?
Oui, j'ai entendu les auditeurs débattre sur la dictée, mais malheureusement, nous, on est passé à une autre façon d'évaluer l'orthographe, c'est-à-dire, on appelle ça la correction orthographique. Donc, la dictée, on tend à supprimer progressivement la dictée. La dictée intervient en ce moment seulement en troisième pour les élèves qui préparent le BEPC, dans le BEPC. Et donc, cinquième et la quatrième, on procède ce qu'on appelle la correction orthographique. Parce que nous, on s'est rendu compte quand même que depuis 2012, en fait, c'est une décision gouvernementale, que finalement, on évalue simplement les fautes. On note les élèves en fonction des fautes et non en fonction des réponses justes. Si je prends l'exemple sur une dictée de 100 mots, si on a 100 mots, l'élève rate par exemple l'orthographe de 80 mots, il est pénalisé, il peut avoir zéro, alors qu'il a trouvé, en fait, il rate le programme de 20 mots, il trouve 80, il a automatiquement zéro alors qu'il a trouvé 80 mots.
Oui.
Donc voilà autant de problèmes sur lesquels...
20 fautes, zéro, effectivement.
Oui.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet exercice que vous faites faire de correction de texte, en fait? Vous présentez aux élèves des textes truffés de fautes?
Ah oui, voilà, donc c'est l'approche par compétence. On peut choisir un texte qui parle de la vie économique. Là, on introduit à l'intérieur de ce texte-là les typologies différentes de fautes. On peut avoir les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de conjugaison. Donc, on introduit 15 fautes au total.
Donc, en fait, le lycéen se met dans la peau d'un correcteur d'orthographe, en fait.
D'un correcteur d'orthographe, tout à fait.
Un prof qui corrige des copies. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Mauduit?
Et c'est un témoignage intéressant, d'autant que cette dictée-là existe encore en français aujourd'hui, tout simplement, pour les malentendants. pour les sourds, c'est le principe de la dictée qui est appliqué parce que bah, sinon on ne peut pas entendre la dictée. Donc c'est un texte avec des fautes et il faut trouver les
alors
fautes.
Sinon, il y a aussi des textes à trous hein, où il faut trouver la fin du mot ou le milieu du mot, par exemple, savoir s'il va y avoir un doublement de consonne ou une terminaison. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie Guéniard, de montrer des textes avec des fautes d'orthographe qui risquent de s'imprimer tout de même dans la mémoire visuelle des élèves?
Alors, ce n'est pas la mémoire visuelle, là. Ah bon? En fait, c'est la mémoire photographique. Il y a des...
C'est pas
des
la même chose.
C'est pas la même chose. La mémoire visuelle, c'est la capacité que l'on a à faire apparaître une image mentale dans sa tête.
Ah d'accord.
Moi, je m'en sers,
d'accord. Je vois ce que vous voulez dire.
Les verbes pronominaux, elles se sont téléphonées toute la matinée. C'est quoi la scène? Ferme tes yeux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elles font? Elles se sont téléphonées. Vous voyez? Ouais.
Deux copines qui se parlent au téléphone.
Mentale, ça, c'est l'image mentale. Ça, c'est la mémoire visuelle. La mémoire photographique. C'est comme si ses yeux servaient, en fait, comme à chaque fois qu'on clignait des yeux, on prenait une photo. C'est pour ça qu'ils sont bons, ceux qui lisent et qui font pas de fautes. C'est que leur mémoire photographique est au top. Le danger de mettre des erreurs, c'est que si on tombe sur quelqu'un dont la mémoire photographique est puissante, il va photographier des mots mal orthographiés. Mais bon, pourquoi pas.
Merci en tout cas beaucoup à Walou de nous avoir appelé de Banjou au Cameroun. Gilbert est également au Cameroun, à Douala. Il dit le secret de l'orthographe, c'est la lecture, toujours la lecture. Vrai ou faux?
Exactement. Il faut lire parce que l'habitude du texte, des mots, on apprend tout doucement et on va dire... tout bêtement, qu'on a moins peur face au texte. Parce que c'est angoissant, un texte comme ça.
Vous avez des élèves qui lisent énormément, qui adorent la littérature, qui adorent les romans et qui sont mauvais en orthographe. Hein.
Oui, ça arrive.
Ouais.
Non, moi, j'étais comme ça aussi.
Ah bah c'est ça, voilà, d'accord. Parce que comment vous avez fait, vous, pour arriver jusqu'à l'agrégation d'histoire?
Et écoutez, je vais vous dire honnêtement...
Vous n'avez pas de nous dire que vous avez toujours été mauvais en orthographe?
Oui, j'étais pas très très bon en orthographe, faut le dire. Ça a été une souffrance scolaire. Et en progressant dans les études et en s'avançant tout doucement vers l'agrégation d'histoire, je me suis dit qu'il devenait impératif, mais même obligatoire, c'était impossible autrement de corriger ça, et je me suis fait des dictées, des autodictées. Ça marche bien les autodictées, c'est bien pratique.
À l'âge de l'agrégation, pour préparer l'agrégation.
Oui, pour être vraiment pile au taquet, et voilà, c'est peut-être pour ça que je l'ai eu, par l'orthographe.
Anne-Marie Guéniard sur la lecture, toujours la lecture.
Non, moi ma mère elle me disait, lis, tu sauras écrire, mais non, moi ma mémoire photographique est minable. C'est la même, en fait, c'est une mémoire de repère. Moi, je suis incapable de retrouver ma voiture sur le parking d'une grande surface. Je ne sais pas où je l'ai garée si je ne prends pas de repère. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont cette mémoire de repère. Et en fait, c'est ça qui les trouble. C'est quand ils voient un mot, ils n'arrivent pas, en fait, à le photographier et à le redonner juste.
Ouais.
Et c'est là où le doublement de consonne rentre en ligne de compte, en fait.
Donc, votre méthode, pour résumer, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission, Anne-Marie Guéniard, c'est d'activer trois mémoires. Hein. C'est bien cela, la mémoire auditive, visuelle et la mémoire kinesthésique, c'est-à-dire le geste,
voilà.
Entendre, voir, faire, hein, c'est ça.
Oui.
Parce que
qu'est-ce que tu entends dans ce mot-là? Qu'est-ce que tu entends?
Oui.
Qu'est-ce que tu entends? Moi, j'ai une phrase que je fais écrire en ce moment, elle est simple, c'est la chouette épuisé, avait beaucoup voyagé. Moi, je laisse passer le CP, CE1, fin de CE1, CE2. Cette phrase, si vous saviez comment ils trouvent le moyen de l'écrire avec ce qu'ils entendent et non pas avec la conscience du mot, moi, ça me fait très peur. La jouette, la gouette, là, tout ce que tu veux, la chouette, et ça peut être un C-H-O-U-A-I-2-T-E.
Oui.
Et E-T, plus loin, puisé, AVE, beaucoup, B-O-C-U, C-O-U.
Et ces enfants ne sont pas pour autant diagnostiqués dyslexiques, hein, on est bien d'accord.
Mais
ce sont des enfants qui ont un problème
brillants,
d'orthographe.
Mais je crois qu'on met le crayon dans la main trop tôt. Si on veut qu'ils aiment la dictée, et je pense qu'il faut la conserver, parce que c'est un bel outil, à condition de pas que ça ne tourne pas à la séance de torture, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donnons aux enfants de quoi être debout sur leurs pieds, aujourd'hui, maintenant, parce que la situation s'aggrave, et ça, c'est intolérable pour moi.
Vous conseillez d'enlever le correcteur d'orthographe sur les ordinateurs ou pas pour,
Après une formation chez moi, on le déconnecte automatiquement, puisque il ne va pas faire la différence dans les homophones, puisque ce mot-là existe dans les dictionnaires qu'il a, et puis taper... Tapez « il est 3h30 passé » sur l'ordinateur, vous verrez qu'il y aura des erreurs dans la phrase, ou mes assistants se sont téléphonés, il va vous proposer EES et sans vous souligner quoi que ce soit.
Le correcteur d'orthographe est un traître. Merci Anne-Marie Guéniard, Xavier Mauduit. C'est vrai que dans les textes des dictées que vous avez retrouvés, qu'on trouve dans votre livre sur la dictée « Une histoire française », alors il y a quand même des textes qui sont durs, notamment sur les paresseux, c'est pour apprendre les mots qui terminent par un X, hein, comme tous les ratés, le paresseux. Seux étant vieux, les jaloux de ceux qui travaillent et sa malveillance en fait un calomniateur. À un camarade qui a vaillamment travaillé et qui est arrivé à une situation, il dit « Tu en as de la chance », on est tenté de lui répondre « Non, je n'ai pas eu de chance, mais pendant que tu restais au lit tard le matin, pendant que tu buvais et jouais pendant des heures, chaque jour je travaillais, on récolte ce qu'on sème, tu n'as pas semé, il n'est pas étonnant que tu n'aies pas de récolte à engranger ».
Eh bien Emmanuel, c'est la dictée morale. La dictée était là aussi pour apprendre la morale. Elles sont vraiment intéressantes ces dictées parce que nous parlons beaucoup d'orthographe, de grammaire, de langue française, mais la dictée c'est aussi ce qu'elle raconte, c'est le texte. Et en l'occurrence là, il y a de la morale, c'était bien l'occasion.
Et de l'humour en tout cas dans votre
livre. Ah ben on a essayé d'en mettre parce que c'est juste du plaisir la dictée.
Merci beaucoup Xavier Mauduit, vous publiez La dictée, une histoire française, c'est publié chez Stock. Merci beaucoup, merci Anne-Marie Guignard, formatrice, La revanche des nuls en orthographe chez Calman Lévy et Hugo et les secrets de la mémoire chez Robert. Merci à vous les voisins, les voisines pour vos très nombreux messages sur les réseaux sociaux et vos appels. Et merci à toute l'équipe, Steven Elsley, Camille Nérant, Cécile Lavolo. Lundi, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les hôtels en Afrique. Ils ne cessent de se moderniser pour rejoindre les standards internationaux. Alors pourquoi sont-ils si chers? Surtout comparé à l'Asie par exemple. À lundi les voisins.